Sur les voies du paranormal, Marc Menant et Rémi Chauvin.
Alors, Jean-Louis Courzier, on peut également évoquer, c'est dans certaines situations de petites douleurs, la capacité que vous avez d'agir à distance, c'est ça? D'ailleurs, vous, s'il y a un eczéma, vous avez la photo d'une personne et là, pof, l'eczéma peut disparaître.
Oui, c'est-à-dire que j'ai la chance, je pense, d'être radiesthésiste et magnétiseur. Et donc, de par le monde, j'ai des clients qui m'écrivent en m'envoyant une photo pour me dire, voilà, j'ai tel problème de santé. Et ils m'envoient leur photo. Et sur cette photo, tous les jours pendant un mois, je travaille dans certains cas pour essayer soit de cicatriser une plaie, soit pour enlever des douleurs. Bien sûr, là aussi, on peut dire qu'il y a un phénomène d'autosuggestion quand on soigne un malade parce qu'il est plus ou moins consentant. En fait, je soigne aussi beaucoup d'animaux. Alors, expliquer à un cheval ou à un troupeau de vaches ou de chèvres qu'on va les soigner par magnétisme et qu'ils vont être guéris, c'est quand même là aussi un petit peu étrange.
Alors quel est le cas le plus invraisemblable comme ça d'action sur un animal à distance?
Alors, je vais peut-être vous faire sourire, mais il y a de ça quelques années, j'ai soigné un âne qui avait malheureusement une très grosse verrue, disons très mal placée. C'est-à-dire
il n'a pas de relation avec Brigitte Bardot, cet âne-là, rassurez-moi.
Pas du tout.
D'accord, très bien.
C'est un âne artichaut.
Le membre en question n'a pas vu en plus.
Et donc cet âne avait une très grosse verrue, on pourrait dire de la grosseur d'une orange, carrément sur le sexe. Il a été présenté à des vétérinaires parce que le porc, il avait des envies parfois comme tout le monde et il ne pouvait rien faire. Et ses propriétaires m'ont contacté, ils m'ont envoyé une photo de l'âne et au bout d'un mois, cette verrue avait diminué de moitié. On me demande de continuer un mois de plus. Et au bout du deuxième mois, cette verrue qui était donc grosse comme une orange a disparu et complètement séché. L'âne n'a pas pu me dire s'il était content, mais apparemment, ça lui a permis de rendre visite à sa petite amie.
Bon, eh bien, et la petite amie ne vous a pas donné de nouvelles non plus?
Non plus.
D'accord. Alors, merci beaucoup Jean-Louis Crozier. Professeur Chauvin, quand vous entendez cela, là quand même, on est en plein irrationalisme. Et vous oui. Admettez le fait...
Ça n'a aucun rapport avec la raison, ça n'existe pas, c'est le seul problème qui soit. Nous ne l'expliquons pas. Ce que nous n'expliquons pas n'est pas forcément absurde. En tout cas, j'ai une histoire exactement pareille à celle de l'ami Crozier. C'était il y a pas mal de temps, j'avais 20 ans, c'était donc il y a 46 ans. Et un de mes jeunes cousins souffrait de verrues sur les mollets, de verrues extrêmement rebelles. C'est empoisonnant comme tout, n'est-ce pas? Et aucun remède de la veillerie. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais l'ami du vicaire de la paroisse, auquel un vieux, je ne dirais pas sorcier, mais enfin appelons-le sorcier si vous voulez, un vieux sorcier du Bas-Maine avait appris quelques trucs. Au moment de mourir, parce que le sorcier lui avait dit, si je te les apprends, je vais les perdre. Donc, comme je vais mourir, ça n'a pas d'importance. C'est notamment l'art de guérir les verrues. Alors je lui ai dit, dis donc l'abbé, puisque vous vous croyez si malin, devriez guérir les verrues de mon petit cousin. Il a dit, ton petit cousin, où est-ce qu'il est? Il a dit, ben, il est là-bas, puis il a des verrues au mollet. Et j'ai regardé, puis il a dit, bon, il n'en aura plus dans 15 jours. Donc, vous vous fichez de moi, malgré le respect que j'ai à l'église catholique, apostolique et romaine, vous me racontez des blagues, mais tu verras bien. Et 15 jours plus tard, il n'y en avait plus. Alors, je lui ai dit, vous êtes un saint, vous faites des miracles. Il n'y a rien de tout ça.
Alors quand même, quand on a toutes les connaissances qui sont les vôtres, la curiosité extrême qui vous anime, est-ce que là, vous ne vous dites pas, il faut essayer de comprendre ces phénomènes-là? Est-ce que vous n'entamez pas des travaux, des recherches? Non.
Mais si, ce qu'on ne sait pas en France, parce que toutes les recherches dans cette direction, qui ont d'ailleurs été florissantes à la fin du 19e siècle, début du 20e, ont été impitoyablement condamnées par la communauté scientifique au début du 20e. C'est-à-dire que dans ma jeunesse qui est lointaine, dans ma jeunesse de chercheur, si on s'intéressait à des phénomènes comme ça, on était maudit. Bon, on ne vous dirait rien, on ne vous ferait rien, mais les crédits dont vous auriez besoin, vous ne les auriez pas, et les postes auxquels vous auriez pu prétendre ne vous sont pas accordés. Nous connaissons très bien la guillotine sèche ou les muets du sérail, si vous voulez. Alors, donc, les recherches ont eu lieu en Amérique. En Amérique, elles ont été extrêmement nombreuses, et elles ont fait suite à des recherches françaises ignorées, du temps de l'Institut métapsychique, il y a très longtemps, à la fin du 19e siècle, début du 20e. Vous ne vous doutez pas des milliers de publications qu'il y a eu là-dessus, toutes exécutées par des hommes de science. Dans le directory, c'est-à-dire l'annuaire des chercheurs en parapsychologie que je possède, des chercheurs américains, donc on n'y a que trois noms français, ce ne sont que des hommes de science. À trois ou quatre exceptions près, les trois ou quatre exceptions étant des philosophes. Enfin, je veux dire, il y a des philosophes, mais enfin, ils font un aspect un peu particulier dans l'Assemblée d'hommes de science. Et les expériences ont été faites avec un soin considérable. Je suis allé en Amérique il y a beaucoup d'années pour voir moi-même le Joseph Banks Ryan, qui était le créateur de la parapsychologie scientifique, à la suite de travaux français, d'ailleurs tout à fait oublié, qu'il ne connaissait pas lui-même, mais ça c'est une autre question. Et je suis resté quelques mois, et revenu chez moi, j'ai essayé les mêmes expériences de Rhein. Oh, c'était une expérience très banale, trouver des cartes cachées dans des enveloppes, ou essayer de faire tomber lancer des dés, puis essayer de les faire tomber sur une certaine face, enfin bref, des choses comme ça. J'avais mes petits neveux et nièces, j'en avais 17. Il se moquait totalement de la parapsychologie, mais pas du tout du sac de bonbons que le bon oncle avait sous son coude, dans lequel il leur permettait de glisser leurs petites pattes. Et naturellement, je faisais attention, parce que ces jeunes scorpions étaient absolument enchantés de me jouer un mauvais tour. Ils ne touchaient jamais au matériel. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé? Ça m'a pris 3 ans. J'ai fait des milliers d'expériences. Personne d'autre en France ne les a faites. Je mets au défi que vous m'en trouviez un seul qui ait vérifié comme moi les travaux de Rhein. Personne d'autre. Ce n'est pas de la capacité, c'est de la mauvaise volonté. Eh bien, j'ai trouvé que ce que disait Rhein était vrai, c'est-à-dire que mes petits neveux donnaient des résultats un petit peu au-dessus du hasard, et parmi eux, il y avait deux phénomènes. Il y avait deux phénomènes qui sortaient tout à fait alors des possibilités du hasard.
Ils étaient capables de produire les phénomènes pratiquement à la demande, comme par exemple influencer le tirage d'un dé, c'est-à-dire que...
Exactement, c'est ce que j'ai fait, mais attention, ils ont lancé les dés 8000 fois, pas une fois, 8000 fois, pas dans la même expérience.
Oui,
quand même.
Je me doute.
Ça m'a pris quand même...
De manger les bonbons, quoi.
Non, il a fallu beaucoup de sacs de bonbons. Hein. Ça a quand même pris trois ans. Alors, la question rationnelle qui se pose, à ceux qui disent ceci n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait pour vérifier ces choses-là? Est-ce que vous l'avez vérifié ou vous ne l'avez pas vérifié? Vous n'avez pas fait des expériences, alors taisez-vous.
Voilà, et d'autant plus que vous, en l'occurrence, ça ne vous rapportait pas un centime, la manipulation ne vous valorisait pas spécialement, c'était de la recherche pour de la recherche.
Oh, du coup, par curiosité scientifique malsaine, comme
voilà,
vous dites.
Ouais. Et alors, dans ces travaux-là, est-ce que vous avez essayé d'aller plus loin que Rhein? Moi, j'avais tenté une expérience, ça n'a aucune valeur parce que je n'ai pas fait ça 8000 fois, sur des tirages de cartes. Et il semble effectivement que des cartes puissent, alors que théoriquement sur des tirages aléatoires, il n'y a pas de reproductibilité, en fonction d'un état psychologique, il y a des cartes qui se réimposent d'elles-mêmes.
Ah monsieur, je vous arrête.
Arrêtez-moi.
Vous voulez prononcer le mot de Descartes. Savez-vous que Descartes avait une certaine espérance de ce phénomène? Dans une lettre à la princesse Palatine, il déclare qu'il aimait assez jouer aux cartes, en principe.
Ouais.
Il dit qu'il avait remarqué quand il était dans certaines dispositions favorables au caractère, qu'il se sentait joyeux, il avait davantage de chance au jeu. C'est Descartes qui signe ça. Quel horrible scandale!
Alors justement, et ça se reprend. Moi j'ai vu sur des tirages, ce que j'avais fait avec une femme qui s'appelle Édilienne Gauthier, constamment il y avait les quatre rois qui ressortait dans les premières approches. Mmh. Alors ça, vous l'avez vérifié aussi dans les travaux que vous avez menés ou pas?
Vous savez, ça remonte déjà à une trentaine d'années. J'ai pas tellement travaillé avec les cartes, un petit peu quand même. Mais enfin, je ne prenais pas les cartes de Rhein, c'était d'autres cartes, mais peu importe. C'est un peu loin dans mon esprit. Mais enfin, j'ai vu quelque chose comme ça, effectivement.
Alors, lorsque vous êtes confronté à cela, quelle interprétation vous en tirez? Parce que le scientifique que vous êtes cherche immanquablement une sorte d'hypothèse de théorie.
Alors moi, je pense simplement qu'il s'agit de possibilités inconnues de mon cerveau et qu'on pourrait les connaître si on travaillait dessus, c'est aussi bête que ça. J'ai eu l'occasion, par exemple, je suis un très mauvais sujet psy, on dit un sujet psy. Hein. J'ai un très mauvais sujet psy moi-même, mais je peux faire expérimenter sur moi-même. Et j'ai fait, par exemple, des recherches sur la surfusion de l'eau. C'est-à-dire, j'avais des tubes capillaires, je faisais geler l'eau, et lorsqu'on ne donne pas de choc, l'eau peut tomber au-dessous de 0 degré sans cristalliser. Puis un petit choc la fait cristalliser. Alors j'ai développé un phénomène qui est extrêmement sensible. J'ai divisé les tubes en plusieurs lots, dont l'un que j'influençais, l'autre que j'influençais pas. J'ai vu qu'il y avait des grosses différences de surfusion. J'ai fait l'expérience 500 fois en plusieurs jours. Où je me suis trompé dans mes calculs, mais je vois pas où je pouvais me tromper, c'était très simple, où j'ai vu quelque chose de bizarre. C'est-à-dire, d'ailleurs, l'eau est un phénomène tout à fait, est une, un liquide tout à fait étrange, qui paraît sensible éminemment aux influences psy, comme on dit, influence cérébrale, appelez-les comme vous voulez, on dit influence psy, parce que ça préjuge de rien.
Alors, ça ne préjuge de rien, mais ça nous permettra, après le flash, de rebondir sur cette influence de la pensée vis-à-vis de la matière. On aura pour invité un autre interprète, c'est René Péo, qui a déjà été notre invité, d'ailleurs, la semaine dernière, lequel vous avez mené des travaux. Et puis, nous déborderons de tout cela pour aller plus loin, là encore, dans la réflexion. Alors, une petite remarque, c'est de Dominique. Elle a, ou il a 24 ans, il est étudiant en droit, il dit « Je suis stupéfait que Rémi Chauvin puisse invoquer les anges ». C'est une petite image. Quand il dit l'ange du bizarre, il n'a pas du tout la conviction d'avoir une entité sur son épaule. Simplement, il constate que des phénomènes sont inexpliqués. Et comme il a beaucoup d'humour, eh bien, il a utilisé ce cliché-là. Voilà, c'est dit.